France Inter. Ce dimanche, dans Interception, nous sommes en Italie et en Alsace. Dans un pays qui nous intrigue, parce que Giorgia Meloni est en train de devenir la femme forte de l'Europe, et dans une région qui a de quoi nous faire peur, parce que dans ce territoire dit des trois frontières, près de la Suisse et de l'Allemagne, l'eau du robinet est interdite à cause des PFAS, les polluants éternels. On commence donc un peu plus au sud, dans cette Italie qu'on a souvent jugée foutraque, ingérable, désordonnée. Depuis 3 ans et l'élection de Giorgia Meloni, la voilà sage, la voilà stable. En tout cas, c'est l'image qu'elle renvoie.
Interception. Fabienne Sintès sur France Inter.
Je me souviens, dans les semaines avant l'élection de 2022, j'ai accordé des tonnes d'interviews à des journalistes étrangers effrayés. Cette droite au pouvoir en Italie, c'est le fascisme, le néofascisme, etc. Et ce n'est pas arrivé. C'est un gouvernement de droite, indiscutablement, élu par plus de 40% des Italiens. Un gouvernement normal, démocratique, comme il y en a eu tant.
Cet homme, c'est Francesco Giubilei, un intellectuel proche du parti de Meloni. Nous aussi, on se souvient très bien de l'arrivée de cette femme au pouvoir. Elle se revendique de l'extrême droite, elle ne cache rien de son passé de militante fasciste, et elle parle comme la fille d'à côté. Aujourd'hui, Giorgia Meloni, c'est entre 35 et 40% d'opinion favorable. Elle prend toute la lumière. En 3 ans, on l'a vue bonne élève européenne, pro-Ukraine, sans ambiguïté. On l'a vue flatter Donald Trump quand il le fallait et entretenir son amitié avec l'extrême droite française, tout particulièrement celle de Marion Maréchal. Giorgia Meloni communique très bien, mais est-ce qu'elle a vraiment changé l'Italie? C'est ça que Bruno Duvic est allé chercher, l'empreinte Meloni, avec ceux qui l'ont amenée au pouvoir et ceux qui la suivent encore. Ça commence pendant un meeting avant les élections régionales, à Ancône, sur la côte Adriatique. Nous sommes dans l'Italie du milieu, entre les plaines du Nord, très riches, et le Grand Sud, plus pauvre. C'est depuis cet entre-deux-là que Giorgia Meloni a conquis l'Italie, et elle y revient toujours.
Et nous voici sur la Piazza Roma, au cœur d'Ancône. Alors, Ancône, c'est une ville d'environ 100 000 habitants. Et la Piazza Roma, c'est comme une carte postale d'Italie. La fontaine, les arbres, les bâtiments ocre. Et ce soir, en plus, il y a une grande scène sur laquelle va s'exprimer Giorgia Meloni dans quelques minutes. Les spectateurs attendent sous les drapeaux aux couleurs de l'Italie, brandis par les plus fervents. Et au milieu de cette place, nous retrouvons deux militants. La première a été un temps professeur du second dans son adolescence. Je les laisse se présenter.
Je m'appelle Patricia Serangeli. Je suis enseignante en droit et économie et administratrice d'une coopérative sociale ici, à Ancône. J'étais candidate Fratelli d'Italia avec succès aux élections municipales.
Je suis Alessio Craculli. Je suis étudiant en médecine en deuxième année. J'ai d'abord été militant au mouvement de jeunesse dès l'âge de 15 ans, puis à Fratelli d'Italia depuis mes 18 ans.
Je regarde Meloni avec beaucoup d'estime avant tout. Elle parvient à s'asseoir à côté du président des États-Unis tout en restant simple. Elle est simple parce qu'elle est l'une des nôtres. C'est une femme du peuple. Elle ne donne pas l'impression d'être assise sur un trône, elle est restée normale. Il m'arrive d'aller à l'étranger et quand je dis Italie, on me répond « Ah, Meloni ». Ça n'arrivait jamais avant. La Meloni est un phénomène mondial et nous en sommes très fiers.
J'ai des origines albanaises. Mes parents sont arrivés dans les années 90. Mais moi, évidemment, je suis né en Italie.
Tu as des racines albanaises. Si quand tes parents sont arrivés, le slogan avait été le même qu'en 2022, port fermé, que se serait-il passé?
Ce sont deux types d'intégration différentes. Eux ont émigré avec l'intention de travailler et ils sont arrivés légalement. Ils ont montré qu'ils pouvaient travailler, s'intégrer, payer les impôts. L'immigration d'aujourd'hui n'est pas compatible avec celle d'avant. C'est une immigration qui crée des quartiers ghettos avec des personnes qui n'ont aucune envie de s'intégrer. Parfois, on cherche à retirer un aspect de notre culture. L'Italie est un pays laïque, mais le crucifix dans les salles de classe, par exemple, c'est important.
La prima donna a guidare il governo italiano, leader di Fratelli d'Italia, signore e signori, Giorgia Meloni.
Bonsoir à tous, merci, merci d'être ici, merci pour cette place. Merci pour cette très belle place. Il fait sombre maintenant, mais je vois vos têtes jusqu'au fond. Je suis très heureuse d'être ici. Parce que de temps en temps, j'ai besoin de venir puiser de l'énergie et de l'enthousiasme auprès de vous. Quand je demande, excusez-moi, mais quelles sont les mesures qui montreraient qu'il y a une dérive illibérale en Italie ? On me répond, le décret sécurité. Mais quelles mesures contient-il ? Aggravation des peines pour qui menace ou agresse les forces de l'ordre ? Sanctions pénales pour ceux qui manifestent en bloquant les routes ou les voies ferrées ?
Ça, pourquoi c'est important ?
C'est un type de manifestation qui ne nous plaît pas. Tu peux manifester de manière pacifique, mais pas en bloquant les routes.
Pour cela, on risquait une amende. En groupe, désormais, on encourt jusqu'à 2 ans de prison, même en cas de manifestation pacifique. La Cour de cassation, dans un avis consultatif, a critiqué ce décret sécurité, jugeant les peines disproportionnées, celle-ci en particulier, qui peut affecter la liberté de manifester, selon les juges.
Mais quelles sont ces libertés que nous serions en train d'étouffer et que la gauche voudrait défendre ? La liberté d'envoyer les mineurs traîner dans la rue, la liberté des pickpockets, la liberté d'insulter les forces de l'ordre, la liberté de squatter les maisons. Ce n'est pas mon idée de la liberté.
Cette chanson, c'est un symbole. Elle est jouée à chaque meeting. C'est la chanson du centre droit et de la Meloni.
Alors, ce n'est pas un hasard si Fratelli d'Italia a choisi ce vieux tube pour ses fins de meeting. Pas sûr que son interprète aurait apprécié, d'ailleurs, il n'est plus là pour le dire. Mais en tout cas, Rino Gaetano renvoie à la Rome de la fin des années 70, période et lieu de naissance de Giorgia Meloni. C'est donc à Rome que nous poursuivons cette promenade dans l'Italie de Meloni avec un intellectuel assez proche de Giorgia Meloni et qui incarne cette montée en puissance des conservateurs en Italie. Il s'appelle Francesco Giubilei, il a 33 ans, il est essayiste et il est conseiller scientifique d'un cercle de réflexion installé au siège de Fratelli d'Italia.
Buongiorno. Sì, 39 alla sede dei Fratelli d'Italia.
Francesco Giubilei, pendant que le taxi essaye de se frayer un chemin dans les embouteillages romains, avant de voir ce qui a changé en 3 ans en Italie, une question sur les origines politiques de la Première Ministre. Elle a commencé à militer dès 15 ans au sein de mouvements de jeunesse du parti post-fasciste MSI. C'était au début des années 90. Qu'est-ce qui reste de cette période selon vous ?
Il reste sans aucun doute l'attachement à des valeurs qui sont celles de la droite, la nécessité de défendre la nation, la patrie, la défense des racines chrétiennes. Tout ça, ce sont des valeurs qui demeurent.
Nous venons de dépasser le Colisée et le Forum. Vous avez été un temps conseiller du ministre de la Culture. À propos de culture, en arrivant au pouvoir, Giorgia Meloni disait vouloir refonder l'imaginaire culturel de l'Italie. Ça s'est traduit par une série de nominations polémiques, de personnalités accusées d'être parachutées à la tête d'institutions pour leur seule proximité avec le pouvoir, comme une reprise en main, mais sur le fond, il n'y a pas de politique culturelle.
Tout le débat qui s'est développé sur l'hégémonie culturelle part du fait que c'est la gauche qui a eu un rôle dans la plupart des politiques culturelles italiennes. Et donc la droite voulait offrir une alternative à cette vision. Nous pouvons le faire en partie avec les nominations politiques, mais ça ne suffit pas. La culture se fait sur le terrain, dans les théâtres, les cinémas, les maisons d'édition, avec les événements, dans les communes, les bibliothèques, les associations. Si on regarde les provinces italiennes, la gauche garde un contrôle presque hégémonique sur une grande partie du monde de la culture. Et ça, c'est le résultat d'une erreur de la droite, qui pendant des années ne voyait pas la culture comme un sujet qui rassemble, qui pensait qu'on pouvait s'en passer et qui n'a pas accordé assez d'attention à cet univers. Depuis 3 ans, il y a eu quelques initiatives, des expositions, celle sur le futurisme, celle sur Tolkien. Mais on peut faire plus.
Ci siamo? Grazie signore. Arrivederci.
Qua ci troviamo, Via della Scrofa è una via.
Nous sommes Via della Scrofa. C'est une rue du centre historique de Rome. On est à quelques pas du Tibre, pas loin du Sénat et de la Chambre des députés.
Nous sommes au centre de la Rome du pouvoir.
Et c'est aussi le siège politique de Fratelli d'Italia.
Un détail saute aux yeux, la flamme qui demeure sur le logo du parti qui fait le lien avec le fascisme.
La flamme, c'était le symbole du mouvement social italien. Ça rappelle une tradition politique, c'est un thème en lien avec des valeurs qui ont toujours caractérisé l'histoire de la droite italienne. Et sur le plan politique, il y a aussi des gens qui restent attachés à ce symbole de la flamme. Et cela joue dans leur vote. C'est pour ça que Fratelli d'Italia a choisi de garder cette flamme.
Mais quand même, pardon. Certes, Giorgia Meloni a multiplié les déclarations pour dire qu'elle ne voulait pas le retour du fascisme, mais quand même, cette flamme, sur le logo, c'est le signe d'un lien avec le fascisme qui est toujours là.
Le symbole de la flamme, il est très large. Ça renvoie à l'idée de liberté, à la Rome antique aussi, avec les Vestales qui maintenaient le feu allumé. Tant que la flamme brûlait, les valeurs et l'identité de la Rome antique demeuraient. Et puis, c'est aussi un symbole olympique. Je ne la relie pas au fascisme.
On va au Matignon italien, le palais Chigi.
Nous sommes là face au palais Chigi, sur une place iconique de Rome.
Cela fait 3 ans que Giorgia Meloni est dans ce palais Chigi. Une réforme importante.
Sans aucun doute, celle de la justice. On en parle depuis des années. Elle a été approuvée au Parlement. Mais pour entrer en vigueur, elle doit être approuvée par référendum.
Alors cette réforme, très polémique, pour beaucoup, elle risque de mettre l'Italie sur un chemin illibéral. Elle est très technique. Un de ses aspects, c'est le tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la magistrature pour dissoudre les courants politiques au sein du Conseil. Dire que les juges sont politisés, c'est quand même commencer à saper le principe de séparation des pouvoirs.
Une partie de la magistrature semble avoir des objectifs politiques. Il faut protéger l'indépendance de la justice, je suis tout à fait d'accord. Dans une démocratie, il doit y avoir la séparation des pouvoirs. Donc, le pouvoir judiciaire doit être indépendant. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la politique est otage de la magistrature. Beaucoup de politiques aujourd'hui ont peur des magistrats, ils n'osent plus agir. Il faut défendre un principe. Un citoyen, qu'il soit politique ou non, est innocent tant qu'il n'a pas été définitivement condamné.
Au-delà de cette réforme de la justice, ce sont souvent les résultats économiques du gouvernement Meloni que ses partisans mettent en avant. Le déficit ramené autour de 3%, le chômage au plus bas. De l'avis assez général des économistes, c'est en partie dû à l'action de la Première ministre, mais en plus grande partie dû à un contexte dont elle a hérité. Pour le déficit, par exemple, la reprise et l'inflation post-Covid ont fait rentrer des sous dans les caisses. Et pour le chômage, la baisse est essentiellement due à des personnes de plus de 50 ans qui restent plus longtemps au travail parce que l'âge de la retraite recule. Mais est-ce que Giorgia Meloni a vraiment relancé l'économie italienne? Nous allons juste à l'extérieur de Rome poser la question à un acteur de terrain. Nous avons quitté le centre de Rome et ses immeubles chargés d'histoire pour la périphérie, juste au sud. Nous sommes dans une zone industrielle avec son lot de concessionnaires automobiles, d'entrepôts, et nous allons à la rencontre d'un patron de PME.
Bienvenue.
Merci de vous rendre disponible. Je me suis garé près de la carrosserie.
Je ne vous voyais pas. Je m'inquiétais. Vous voulez un café ? Tiziano est notre directeur général. Je suis Fabio Calzoni, je suis l'administrateur délégué de Secur Italia, qui est une entreprise spécialisée dans les services anti-incendie et de sécurité au travail. Nous avons une cinquantaine d'employés permanents et une quinzaine d'autres qui collaborent régulièrement avec nous. Cette année, nous avons célébré nos 20 ans d'activité. Là, nous entrons dans un tunnel. Notre siège de Rome est aussi un centre de formation. Ce que vous entendez, c'est une simulation d'alerte anti-incendie. C'est le système et l'alarme qui retentit quand il y a un départ de feu.
Comment va l'économie italienne selon vous ?
Clairement, je sens que les milieux économiques sont vraiment beaucoup plus sereins grâce à la stabilité politique. Et cette stabilité, nous en avions besoin. Avoir un gouvernement auquel on peut se référer donne aussi des garanties pour exercer notre activité dans un climat plus serein et plus détendu. D'un autre côté, nous vivons un moment très compliqué. Parce que la dépense publique avait explosé, on essaye maintenant de la contenir. Je lisais ces derniers jours que le déficit approche des 3% du PIB. Donc la situation s'améliore, sans aucun doute. Mais objectivement, chacun peut voir que la dépense publique est très contenue. Les entreprises pourraient et devraient bénéficier de plus d'incitations à investir. Elles subissent forcément cette contrainte. Et en plus, désormais, l'État veut investir dans la défense, dans le réarmement. On parle de chiffres énormes, des millions et même des milliards. Les entreprises pourraient finir par être pénalisées.
Alors, l'Italie a une démographie en berne et manque de main-d'œuvre. Sur le quinquennat, Giorgia Meloni aura fait venir ou régulariser environ 1 million de travailleurs extra-communautaires, mais les entreprises ont besoin de plus. Est-ce que c'est facile de trouver de la main-d'œuvre ?
Je lisais récemment que d'ici à 2050, sans immigration, l'Italie risquait de perdre 7 millions, enfin 6 millions 800 000 travailleurs. Il y aurait de toute façon 3 millions d'emplois vacants. Trouver des employés, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a d'autres entrepreneurs qui me le disent. De notre côté, notre travail est très technique, spécialisé. Un employé qui ne maîtrise pas l'italien risque de ne pas y arriver. Donc à propos de l'emploi, on ne saute pas vraiment de joie. Je dois reconnaître qu'on arrive à trouver des personnes, mais on y travaille constamment, toute l'année.
Si certains indicateurs s'améliorent dans l'Italie de Giorgia Meloni, elle n'a mené aucune grande réforme en profondeur pour transformer le pays. En économie, les grands défis demeurent. La croissance atone, l'activité industrielle en baisse. Et dans la société, l'un des grands défis italiens, c'est la place faite aux jeunes. Alors nous arrivons dans le quartier de Mezzo Camino, sur la route de la mer, au sud de Rome. Quartier d'immeubles carrés et propres. On voit un rond-point décoré de fresques façon BD, des parcs d'agrément pour les familles. En Europe, après la Roumanie, l'Italie a le deuxième taux de NEET, ces jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation. Ils sont environ 2 millions entre 15 et 34 ans. L'Italie, en fait, avec sa démographie en berne, est un pays de vieux qui ne fait pas de place aux jeunes. Du coup, beaucoup préfèrent partir et tenter leur chance à l'étranger. Ces 15 dernières années, plus de 500 000 jeunes sont partis. Certains rentrent, mais le solde est largement négatif. L'exode des jeunes diplômés est un sujet de débat quasi quotidien dans la presse.
Salve, sono Bruno. Grazie.
Nous arrivons chez Pietro, qui vit avec son colocataire dans ce quartier. Il n'est pas parmi les plus mal lotis, mais tout de même, il prépare un départ à l'étranger.
Ciao.
Ciao.
Piacere.
Piacere, Bruno.
Ciao Bruno Alessandro.
Buongiorno.
Piacere, buonasera, buonasera.
Ah, c'est un balcon. Ah, vous avez un grand balcon, c'est presque une terrasse.
Viens dans ma chambre, j'ai allumé l'ordinateur.
Si, ok.
Je te prends une chaise. Je finissais de travailler sur des documents.
Grazie.
Alors, je m'appelle Pietro, j'ai 27 ans. Je suis ingénieur en mécanique. J'ai étudié à Rome, à l'université de Tor Vergata. Je travaille dans le secteur des énergies renouvelables. J'aimerais continuer la carrière académique, faire de la recherche et de l'enseignement à l'université. Pour l'instant, j'ai un contrat pour un travail de recherche à durée déterminée, un an renouvelable. Le salaire varie, mais il est sous les 20 000 euros annuels bruts. Donc le net est de 1 420 euros par mois. En ce moment, je regarde autour de moi. Je regarde ce qu'il y a sur LinkedIn pour voir si en Europe, je ne pourrais pas trouver une meilleure situation. Mieux payé et plus intéressante en termes de recherche. Je cherche des pays qui, à la différence de l'Italie, investissent dans la recherche. Ce qui veut dire un meilleur salaire, des moyens, des technologies, des laboratoires mieux équipés. Je vais te montrer. Si par exemple je tape « poste à pourvoir » et « DQ » pour « Université du Danemark », déjà le site est à jour et très bien fait. Je cherche « postdoc », il y a plein d'offres qui apparaissent. Je te prends un exemple similaire, aux Pays-Bas cette fois-ci. Je tape « TU Delft », nos postes à pourvoir.
Ok. Et qua, diciamo, cioè,
les offres tombent tout de suite.
Lo trovo adesso, sottometto subito. Prendiamo una posizione.
Je choisis un poste. Tu vois,
ecco, vedi?
Niveau de salaire entre 3546 euros et 5538 euros. Moi, je suis à 1400
net.
Entre 38 et 40 heures de travail hebdomadaire, ils sont très attentifs aux conditions de travail. À 16h30, 17h, il n'y a plus personne au labo.
Alors, tu pars ou pas?
L'an prochain, j'aimerais bien, j'espère.
On va prendre l'apéritif?
Avec plaisir.
I want to know,
vorrei sapere,
I want to know,
vorrei sapere,
I want to know,
vorrei sapere,
I want to know,
come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi.
Come sono i tuoi colleghi qui partono? Ils reviennent ou pas?
Dans la majeure partie des cas, non, ils restent à l'étranger. Parce qu'ils ne trouvent pas d'opportunité pour rentrer en Italie et que les conditions de travail là-bas sont meilleures en termes de satisfaction personnelle, de revenus et sur bien d'autres plans. Et ils fondent une famille à l'étranger.
Et vous, justement, à quel âge pensez-vous devenir père?
J'ai toujours imaginé être un très jeune père, parce que j'y vois plein d'avantages. Mais c'est difficile aujourd'hui en Italie de devenir parent jeune. C'est comme si la société nous obligeait à attendre et à reporter le projet. Les salaires sont bas, il est difficile de se loger, que ce soit à l'achat ou en location. Donc même si tu veux faire des enfants, tu ne sais pas bien où tu installeras ton foyer. Et donc tu reportes le projet. Alors tu fais des enfants à un âge plus avancé, où tu n'as pas d'enfants du tout. Et les familles ne voient pas le jour. C'est un problème dont Mélanie a hérité. Elle ne l'a pas créé, mais elle ne fait rien pour le résoudre. Peut-être parce que les bénéfices d'éventuelles réformes ne se verraient qu'à long terme. Un politique regarde à l'horizon de son mandat, qui est bref, pour avoir des voix et être réélu. Donc elle n'investit pas dans cette question de la jeunesse, mais dans des sujets qui ont des résultats positifs et concrets à court terme.
Trois ans de pouvoir, le mystère Meloni, un reportage de Bruno Duvic avec Florent Layani.
France Inter, Interception.
Si l'Italie voit à court terme, là où je vous emmène maintenant, c'est un long terme qui inquiète. Un long terme avant que l'on retrouve confiance dans l'eau que l'on boit. Dans ce coin d'Alsace, du sud de Mulhouse, on ne boit plus l'eau du robinet. Depuis le 5 mai, c'est interdit. Par arrêté préfectoral, interdit aux femmes enceintes, aux nourrissons, aux immunodéprimés. Mais les 60 000 habitants de la zone que vous allez découvrir ne tentent pas le diable. La plupart sont revenus aux bouteilles plastiques, y compris pour laver les légumes, faire le café ou se laver les dents. Les PFAS, ces polluants éternels, sont partout à des doses très supérieures à la moyenne. Ici, la cause, ce sont les mousses anti-incendie, utilisées sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Elles sont interdites depuis 2017, mais la nappe phréatique a été durablement contaminée. Là, nous allons donc dans l'agglomération de Saint-Louis. Et peut-être que ce que vous allez entendre, guidé par Faustine Calmel et Julien Girard, c'est notre vie à tous dans quelques mois.
On prend d'abord la direction de chez Franck et Nathalie Beza. C'est à Eggenheim, une petite commune alsacienne. Pour y arriver, on traverse des rues avec des maisons à colombages. On passe ensuite au travers des champs de maïs et de terrains agricoles. L'aéroport de Bâle-Mulhouse est à moins de 3 km. Franck et Nathalie vivent donc ici, au rythme des avions, depuis 30 ans. Et ils le savent désormais, ils ont été contaminés.
Vous étiez en train de regarder si vous étiez bien installé ?
Eh ben, je regardais votre paysage. Je regardais les champs autour. Vous êtes au bord du champ de maïs.
Ouais, on est trop près même. Ça, c'est encore un autre combat. Avec les pesticides et tout.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on a une belle vue. En face de vous, c'est l'Allemagne.
Les montagnes,
c'est ça ? Ouais, tout droit, c'est l'Allemagne. Puis sur votre gauche, on voit de temps en temps les Vosges, je crois que c'est découvert. Et à droite, c'est la Suisse. Et ça, c'est notre chien, Kaline. Je vous présente juste ma charmante femme, Nathalie.
Bonjour,
bonjour madame.
Je vous prépare un petit café ?
Eh ben, je veux bien. Et puis vous allez me montrer comment vous le préparez ? Parce que ça doit pas être l'eau du robinet ?
C'est la cafetière et puis je mets de l'eau dans bouteille dedans, oui. Forcément.
Ah, vous voulez voir, vous conseillez, les gens, bah alors on va aller à la cuisine alors. Allez-y, je vous en prie. Ouais, depuis 3 mois, on est les rois de la bouteille en plastique. Bon, pour la gazeuse, on prend de l'eau en bouteille en verre. Mais pour l'eau plate, on est encore sur les bouteilles en plastique.
Hop là.
Ouais, donc là, c'est forcément eau en bouteille, là, pour le café, le thé.
Pour le thé, pour le café, oui.
Pour tout, maintenant.
Et pour, pareil, quand vous faites la cuisine, c'est de l'eau en bouteille. Hein. Bon, sauf pour laver la salade, pour la rincer, tout ça, là, je prends l'eau du robinet, hein. Pour faire la vaisselle, pareil. Pour la vaisselle, c'est de l'eau du robinet. Pour le lave-linge, pareil. Mais alors, pour ce qui est alimentaire, effectivement. Bouteille, ouais.
Quoi qu'on pourrait pas nous dire, hein, on pourrait douter de tout. Hein. Parce que nous, en fait, depuis qu'on est en Alsace, enfin depuis toujours, on a toujours bu l'eau du robinet. Et puis, d'après ma femme et moi, quand on se promenait dans les magasins, quand on fait les courses, on voit toujours des gens qui remplissent des caddies de bouteilles. On se dit, mais c'est aberrant, quoi. L'eau du robinet est beaucoup meilleure, quoi. Donc, elle est contrôlée et tout. Finalement, c'est peut-être nous qui avons tout faux, quoi. Donc, voilà, c'est ça le problème, quoi. On est assez...
On fait trop confiance.
Vous avez cette impression-là d'avoir trop fait confiance ?
Veolia vous envoie régulièrement des relevés où tout est bon. Vous pouvez normalement vérifier les analyses d'eau toutes les semaines. Hein. Ils faisaient des relevés. Et puis, tout à coup, on se rend compte que pendant des mois, voire des années, on nous empoisonne, en fait.
On va aller dans la Vérona ?
Allez.
Ça, c'est les résultats des PFAS qu'on a fait au niveau de l'association de l'ADRA, avec les résultats des personnes qui sont toutes contaminées.
Vous avez fait le choix, en tout cas vous êtes porté volontaire,
oui,
pour être testé, pour qu'on dose les PFAS que vous avez, vous, dans votre sang, c'est ça ?
Oui. Il y a des gens qui ont fait le choix de ne pas faire le test. Moi, j'ai fait le choix avec 10 autres personnes de faire le test. Je voulais savoir ce qui se passait dans mon corps. Donc voilà.
Donc Donc là, on a un tableau, service de toxicologie.
C'est là où on a fait la prise de sang Saint-Louis, quoi.
Et vous êtes où dans ce tableau?
Je crois que je suis ici. Attendez, je vais vous dire ça. Attendez, voir, je reprends le truc ici. La norme, elle est combien? Je crois que je suis 4 fois supérieur à la norme minimum. Après, on peut plus rien faire. Donc, comme c'est des PFAS, ce qui est dans le corps, ça y reste. Je croise les doigts pour qu'il m'arrive rien.
Mais comment on vit quand même avec ça? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que, voilà, dans votre tête ou dans votre vie, vous y pensez plus? Ça a changé quelque chose?
À titre personnel, comme je suis déjà immunodépressif, donc je pose beaucoup de questions. Mais moi, je m'inquiète surtout pour les personnes qui ne savent pas, qui continuent à consommer de l'eau comme ça, sans savoir. S'ils sont tous naïfs comme moi, pendant 30 ans ou même plus, on a bu de l'eau du robinet en se sentant protégé. J'ai toujours dit aux gens, l'eau du robinet, elle est contrôlée tous les jours. Et puis bon, on était toujours rassurés sur le fait que l'eau n'est pas exceptionnelle, mais elle est consommable, quoi. Mais bon, comme on n'a jamais cherché les PFAS, c'est sûr qu'elle est bonne. Voilà, c'est ça le problème, quoi.
Vous avez des enfants, vos enfants, ils ont grandi ici.
Oui.
Est-ce que vous vous inquiétez pour eux aussi?
Clairement, oui. Mon fils, c'est un sportif de haut niveau, donc pour le moment, il n'est pas concerné, mais je pense que dans sa tête, il se posait des questions. Hein. Ah oui. De toute façon, tout ce qui nous tombe dessus, les PFAS, les pesticides et tout, mes enfants n'ont pas d'enfants. Mais je suis presque content, quoi. Parce qu'il y a trop de problèmes concernant la santé qui va leur tomber dessus. Non, j'ai eu doute de tout. Bon, vous êtes plus jeune que moi, donc je vais pas vous casser le moral, mais bon.
Non, vous me cassez pas le moral, mais c'est un discours très pessimiste que vous tenez.
Ah, moi, je suis quelqu'un de très optimiste, mais je suis un optimiste au courant. Enfin, au courant plus que les autres. Donc, en fait, je suis pessimiste, ouais. Il y a 5 ans, on était en réunion de famille, et puis ma fille, elle me dit qu'elle attendait un enfant. Tout le monde a rigolé, tout le monde était content, moi, je commence à pleurer. Après, elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, mais écoute... Qu'est-ce qu'elle va faire cette fille dans 10 ans, dans 20 ans sur notre planète? J'étais tellement démoralisé. Non, c'est pas évident. Bon, aujourd'hui c'est PFAS, mais bon, demain ça sera autre chose.
Est-ce qu'on peut aller voir votre réserve de bouteilles?
Oui.
Comment vous êtes organisé ou réorganisé?
Bon, oui, on peut voir. On peut aller voir. C'est la bière.
Alors on descend à la cave, c'est ça?
Oui. J'ai pas fait de stock, mais bon...
Bon, pas de stock, vous avez quand même...
J'ai à chaque fois...
Vous avez quand même 1, 2, 3 gros 4 en plastique où il y en a 12.
12, ouais.
C'est pour les bouteilles en verre.
C'est lourd, hein. C'est lourd. Et là, vous avez bouteilles en plastique pour l'eau plate.
Et le fait d'acheter maintenant l'eau que vous buvez, avec laquelle vous faites vos pâtes, votre café, votre alimentation, vous savez combien ça vous coûte?
J'ai pas fait le calcul, mais c'est 100 fois plus cher que l'eau courante, hein, ça c'est sûr.
On est maintenant de l'autre côté de l'aéroport, au pied d'un immense château d'eau blanc qui domine les champs tout autour. Et juste à côté, devant nous, il y a depuis quelques semaines deux étranges containers avec des tuyaux qui en sortent, qui y entrent. Ce sont en fait des unités de dépollution pour rendre l'eau du robinet à nouveau potable pour tout le monde. Fanny Greff, Veolia Eau, directrice du territoire Alsace. Donc si on rentre un peu dans les détails de ces deux filtres, hein, l'eau va passer dans un premier temps au travers du premier filtre, puis au travers du deuxième filtre. Donc l'eau va traverser deux filtres qui contiennent chacun 13 mètres cubes de charbon actif en grains. On y va ? Voilà, donc dans cette petite bouteille, vous trouvez un échantillon du charbon actif qui se trouve dans les filtres qu'on a sous nos yeux. Donc ce sont des petits grains qui, si on les regarde au microscope, ont plein de petits creux, plein de petits recoins. Ce charbon-là a la capacité de faire venir s'adsorber, c'est le terme exact, l'adsorption, les molécules de PFAS à sa surface. Donc pour faire simple, les molécules de PFAS vont venir s'accrocher à la surface de ce charbon. Et entre l'entrée initiale et la sortie définitive, quels sont les taux actuels que vous avez d'épiphase qui ont été mesurés ?
Sur ces puits-là du secteur de Bartenheim, on a une teneur en PFAS dans l'eau entre 0,3, 0,4, 0,5 microgrammes par litre. Et donc, en sortie, on a une eau qui repasse en dessous de la limite réglementaire à 0,1 microgramme par litre, donc qui est parfaitement conforme.
Donc, on le disait, on est là devant des unités mobiles, mais face à des polluants éternels. L'étape d'après, pour vous, pour Veolia, c'est de mettre quoi en place sur le territoire ?
La deuxième phase, ça consistera à l'installation sur ces mêmes sites d'usines pérennes de traitement d'eau potable, basées sur la même technologie de traitement. Pour l'instant, on en est à réaliser la phase d'étude de ces futures usines. Les travaux viendront dans un second temps.
Une fois que le charbon actif a capté les PFAS, il est incinéré à plus de 1200 degrés. C'est la température qui permet la destruction complète des polluants éternels. Une pollution qui a un coût élevé, d'abord pour les habitants qui achètent pour la plupart désormais de l'eau en bouteille. Les personnes vulnérables peuvent bénéficier d'un chèque d'aide de 80 euros. Et puis la facture des usines de dépollution, mobiles et pérennes, s'élève à 20 millions d'euros. Et cela pèse lourd sur les finances de l'agglomération de Saint-Louis.
Thierry Litzler, vice-président de Saint-Louis Agglomération en charge de l'eau. Alors pour la prise en charge aujourd'hui, nous avons cherché des partenaires financiers. Et le premier partenaire financier, c'est bien évidemment l'Euroairport de Balmulhouse, en raison de la responsabilité morale qui leur incombe. Aujourd'hui, cela se traduit par une enveloppe annoncée de 10 millions d'euros que l'aéroport va mettre à disposition de Saint-Louis Agglomération pour permettre de réaliser ces différents travaux et investissements.
Donc c'est la moitié à peu près du total, c'est ça ?
50% voilà, de la somme. Nous avons également l'agence de l'eau Rhin-Meuse, les services de l'État qui sont prêts à nous accompagner. Donc là, on est sur une enveloppe de l'ordre de 2 millions d'euros. Et donc nous avons aujourd'hui la certitude que le prix de l'eau pour nos abonnés ne bougera pas en 2025 et ne bougera pas non plus en 2026. À partir de 2027, le prix va évoluer, mais le prix va évoluer non pas par rapport à la seule problématique ou au seul dossier des PFAS. Aujourd'hui et encore plus fortement demain, il nous appartiendra de réfléchir de manière globale. Quel est le coût de l'eau ? Depuis le puits jusqu'à son retraitement.
On se rend maintenant sur les lieux mêmes de la pollution, l'Euroairport Balmulhouse, rencontrer un homme qui se bat depuis des années contre les nuisances de l'aéroport et donc désormais contre les PFAS.
Alors, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Hein. Et donc, on a le plaisir et le privilège d'être impacté par le bruit, en premier, bien sûr, mais aussi par les odeurs, la pollution atmosphérique et maintenant par les PFAS.
Je suis Bruno Wollenschneider, président de l'ADRA, l'association de défense des riverains de l'aéroport de Balmulhouse. Donc là, on est près du satellite, du tarmac. Et plus loin, on se dirige donc vers le deuxième hotspot de l'aéroport, l'endroit près de la caserne des pompiers, où pendant des années, des exercices avec les mousses anti-incendie ont été effectués sur sol nu, avec infiltration dans le sous-sol.
Et donc c'est ça qui est responsable de la pollution qu'on a détectée là depuis 2023 ?
Essentiellement, oui. Les puits de Saint-Louis et de la région sont en contrebas de cette plateforme aéroportuaire qui est au-dessus de la nappe phréatique. Et l'eau circule donc de l'aéroport vers les puits. C'est ces puits-là qui sont le plus pollués, oui. Cette reconnaissance de la situation est un peu tardive parce qu'on parle des PFAS quand même depuis les années 2000, particulièrement aux États-Unis. En 2015, 16, 17, les agences de l'eau ont fait des prélèvements dans toute l'Alsace et notamment près des puits de Saint-Louis et ont publié les résultats qui, à l'époque déjà, étaient très élevés.
Au-dessus des seuils.
Largement au-dessus des seuils. On trouve des maxis 4 fois supérieurs au seuil à cette époque-là. Des aéroports en Europe changeaient de produit. Et ça, dès les années 2009. Et l'aéroport de Bâle-Mulhouse a attendu 2017. Que de temps perdu. Il faut absolument confiner la source de la pollution pour éviter que les puits continuent d'être contaminés. Et puis, à terme, il faudra dépolluer. C'est compliqué. C'est difficile, c'est très coûteux, mais les PFAS sont très dangereux et il faut s'en débarrasser. C'est un problème pas seulement qu'on trouve ici dans notre région, mais c'est un problème qui est général. Et puis, beaucoup de communes, voire des régions entières en France, n'ont pas encore commencé à chercher les PFAS dans l'eau souterraine. Il faudrait qu'ils se dépêchent puisque la législation impose en janvier 2026, que tout le monde fasse ses mesures et délivre une eau potable en dessous des 100 nanogrammes par litre. Et là, je pense que beaucoup ne sont pas encore conscients des difficultés, des problèmes qui sont devant eux.
Ça veut dire qu'à partir de janvier prochain, demain en fait, on peut avoir des Saint-Louis un peu partout en France.
Des révélations quotidiennes, comme on en a eu ces dernières semaines au niveau de l'Oise, de la Meuse. On a aussi un cas en Bretagne, autour de Rouen, et ainsi de suite. Et ça continuera. On peut s'inquiéter, prendre conscience des dangers qui viennent impacter notre vie, notre avenir, je pense à mes enfants, mes petits-enfants. C'est vraiment un défi sociétal que nous avons devant nous, et il faut le prendre en main.
Vivre avec les PFAS, un reportage de Faustine Calmel pour Interception. À la production, Xavier Yvon, la réalisation est signée Lucie Lemarchand. Merci à Samy Messaoud pour la documentation sonore et c'est Sybille Clamins et Maxime Goudard qui assuraient le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro au bout du monde et au coin de la rue.